Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Tamani. Il est 18h. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Suspension de la grève du syndicat des banques et établissements financiers du Mali. Après 48 heures d'arrêt de travail, le CNABF et le patronat sont parvenus à un protocole de conciliation ce jeudi. Les clients des banques se réjouissent de la nouvelle. Des partis politiques s'insurgent contre les propos tenus par le premier ministre Choguel Kokala Maïga sur l'avènement de la démocratie et la politique au Mali. Selon eux, le premier ministre divise au lieu de rassembler. Plus question de voyager sans le carnet de vaccination et les tests négatifs de Covid-19. Les autorités sanitaires l'ont annoncé ce matin, une manière d'économiser le temps et l'argent, explique-t-elle. Le point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Nohum Diré assure la technique. Et tout d'abord, cette information qui vient de tomber, les juges de la Cour pénale internationale décident de réduire de 2 ans la peine de l'ancien djihadiste Hamad Al-Faki Al-Mahdi alias Abu Turab. Il avait été condamné à 9 ans de prison pour la destruction des mausolées de Tombouctou, des actes considérés comme des crimes de guerre. En octobre dernier, l'ex-djihadiste avait demandé pardon à la population de Tombouctou pour ses actes et plaidé pour sa libération anticipée. Les juges ont estimé que la réduction ne devait pas s'appliquer à la totalité du temps qui reste à purger pour M. Al-Mahdi. Et ainsi, il restera en prison jusqu'au 18 septembre 2022. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali a levé son mot d'ordre de grève ce mercredi soir. La signature du protocole d'accord du procès verbal de conciliation a eu lieu ce jeudi entre le patronat et le CNABF. Le syndicat estime que plusieurs concessions ont été faites de part et d'autre qui ont permis d'aboutir au point d'accord. Cette nouvelle est accueillie avec satisfaction par des usagers du secteur banquier. Khalifa Guita.
Après 48 heures de grève, les banques étaient prises d'assaut ce jeudi matin à Bamako suite à la levée du mot d'ordre des grèves du CNABF. Des clients que nous avons pu rencontrer à leur sortie des banques ne cachent pas leur joie, mais d'autres ne digèrent toujours pas ces 2 jours de grève.
Ils ont dit que ça a pris fin, mais est-ce que c'est vrai? Je ne parviens pas à avoir de mes sous au niveau du guichet. Je ne suis pas content.
Ça m'a plu. Je devais effectuer une opération depuis. Bon, les grèves ne m'ont pas permis. Aujourd'hui, j'ai pu effectuer mon opération.
Je suis satisfait aujourd'hui, mais situation de grève là, ils n'ont qu'à faire des grèves au début de mois, au lieu que fin de mois, c'est ça qui est mieux.
Cette grève là n'avait pas son sens. Ça nous pose trop de tort, nous qui sommes les clients.
Le secteur banquier paralysé reprend donc ses activités. Pour les membres du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali, c'est le satisfecit après ces mouvements de grève. Ogote Meloum Guino, secrétaire administratif du CNABF.
Il y avait 13 points de réclamation. Nous avons eu 10 points d'accord. Les 3 autres points de commun accord ont été retirés. L'ensemble des points, il y a eu accord. Aujourd'hui, ils peuvent être fiers. Les syndicats se sont battus. Ce n'est qu'une satisfaction entière. Le lever du mot d'ordre de la grève définitivement.
Même si des usagers des banques sont contents de la nouvelle, ils espèrent ne plus revivre ces arrêts de travail dans les établissements bancaires.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La ville de Banyangara a essuyé des tirs hier mercredi. Selon les sources locales, le bilan de cette attaque menée par des hommes armés fait état de 4 civils tués et d'importants dégâts matériels. Les mêmes sources rapportent que les militaires présents dans la localité n'ont pas riposté. Le ministre de la Défense de la Belgique a annoncé la semaine dernière le déploiement d'un contingent des forces spéciales belges au Mali d'ici 2022. Cette unité spéciale serait un ajout aux forces de l'opération Takuba initiée par la France. Il s'agit de 165 à 255 hommes, a-t-il précisé. Cependant, certaines mesures devraient être prises avant le déploiement définitif de ces éléments au Mali. Plus de détails avec la Laïcha Wallet Infa.
La Belgique attend renforcer sa présence au Mali à travers la force Takuba. Selon le ministre de la Défense belge, l'effectif de plus de 300 éléments belges déjà présents pourrait être prolongé par un déploiement plus actif au Sahel. Il s'agira précisément d'une tactique interarmée qui sera en opération au Mali au second semestre de l'année 2022 dans la lutte contre les djihadistes. Le déploiement de cette unité se ferait de façon progressive selon les attentes précises le ministre belge de la Défense. L'effectif est estimé entre 165 au premier trimestre à 255 au second semestre de l'année 2022. Cette nouvelle équipe de forces spéciales aurait pour mission la protection de la base de déploiement, des convois logistiques et l'appui des forces spéciales et des FAMA, entre autres. Aussi, ce détachement belge est accompagné des véhicules blindés. L'arrivée de ce contingent est annoncée à un moment où les relations entre Paris et Bamako sont dégradées. L'Union européenne, lors d'une réunion à Bruxelles, a annoncé qu'elle travaille à mettre en place des sanctions. Les dites sanctions devraient être mises en place à compter du 13 décembre 2021.
Autre sujet, plusieurs partis politiques se disent indignés par les propos du Premier ministre Choguel Kokala Maïga sur l'avènement de la démocratie et la politique au Mali. La Demande, Parena ou encore EMK ont qualifié cette sortie d'inacceptable et certains demandent au président de la transition de prendre ses responsabilités. Les détails avec Aboubakr Ag Mohamedine Yattara.
Le seul et unique bilan que la démocratie nous a légué est la floraison des associations et des partis politiques. Ces propos ont été tenus par le Premier ministre lors de sa rencontre avec les autorités coutumières et ils sont à l'origine de la colère de certains partis politiques. Des propos qui divisent, a déploré Tshebele Dramé, président du Parti pour la Renaissance nationale Parena. Dans une déclaration, il accuse le Premier ministre d'être un des plus grands diviseurs communs du pays au moment où le Mali a besoin de rassemblement. Pour lui, la transition est entrée dans une nouvelle phase d'autoritarisme. Le parti de la Baye, l'ADEMA-PACJ, a aussi condamné avec la plus grande fermeté ses propos du Premier ministre. Ses responsables, dans un communiqué datant du 23 novembre 2021, appellent le président de la transition à jouer pleinement son rôle de rassembleur de fils du pays. Selon Marie Mantandjara, président du parti, les propos du chef du gouvernement de la transition sont une insulte à la mémoire des martyrs de mars 1991. De son côté, Cheikh Oumar Sissoko du parti Espoir Malikoura dénonce l'approche du Premier ministre qu'il taxe de division. L'ancien membre du M5-RFP ne cache pas aussi ses inquiétudes face à la gestion du gouvernement de la transition. Pour lui, la crise multidimensionnelle ne fait que se détériorer.
La première promotion des écoles politiques et démocratiques vient de sortir ce jeudi. Après 3 mois de formation, l'école politique est baptisée Mamadou Konaté et l'école démocratique porte le nom de Thomas Isidore Sankara. Ces deux promotions comptent 60 participants, dont 25 femmes. Cette formation est un projet de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite soutenu par l'Union européenne. Ibrahim Maïga, représentant régional Sahel de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, est au micro de Salih Sissoko.
Un de nos outils pour accroître la participation des jeunes et des femmes à la politique, mais surtout dans le domaine de la prise de décision. Nous en avons déjà fait à travers le monde et nous trouvions qu'il était important, compte tenu justement de l'élan de refondation qui semble être porté aujourd'hui par les autorités de la transition, mais aussi par les forces vives de la nation, de créer ce cadre-là. 5 semaines d'intense formation pour l'école démocratique. Et l'école politique, c'est 2 week-ends par mois. Les majors de promotion auront la possibilité de se rendre aux Pays-Bas pour un voyage d'études, 2 à 3 semaines, mais aussi des dames les mieux classées de leur promotion. Donc on aura en tout 14 jeunes qui auront la chance de bénéficier d'une bourse de stage aux Pays-Bas.
Je vous l'annonçais dans les titres, le carnet de vaccination et les tests négatifs de COVID-19 sont désormais obligatoires pour les voyageurs au Mali. Ces documents seront également digitalisés pour économiser le temps et l'argent. L'annonce a été faite ce jeudi par les autorités sanitaires au cours d'une conférence de presse. Écoutons les explications de Samba Ousmansou, directeur général de l'Institut national de santé publique. Il est au micro de Moussa Malé Sissoko.
Nous allons faire en sorte que le test PCR COVID voyageur et notre carte de vaccination, que ces deux soient digitalisés et qu'on puisse voyager tranquillement avec ce format digitalisé à tous les niveaux et dans tous les pays du monde. Donc cette passe sanitaire est rendue effective aujourd'hui dans notre pays et la mise en œuvre, c'est à partir de maintenant, c'est toute l'étendue du territoire. Il y a également la passe vaccinale. Il va falloir à partir de maintenant exiger les cartes de vaccination bien remplies pour rentrer dans notre pays. Et je dis bien la décentralisation du prélèvement des tests PCR voyageurs et également effectif à partir de la semaine prochaine.
Direction Bougouni, où le maraîchage est l'une des activités génératrices de revenus des femmes. Cette activité leur permet d'assurer le prix du condiment et de subvenir aux dépenses des enfants. Cependant, même si elles tirent profit, ces maraîchères disent qu'il y a un sérieux problème d'eau. Notre envoyée spéciale à Bougouni, Juliette Koulibaly, a fait une immersion dans un jardin maraîcher à Massabilakoura.
Elles sont plus de 100 femmes avec leurs enfants à travailler dans ce jardin maraîcher à Massabilakoura, un ancien quartier de Bougouni. Au moment où les femmes désherbent, les enfants arrosent.
Les clients viennent acheter les planches de laitue, les pépinières également, surtout les habitants des riverains, notamment Toula. Des fois, on les vend jusqu'à 4000 francs.
On utilise une partie à la cuisine et le reste est vendu.
Toutes nos dépenses sont réalisées grâce à nos productions. J'ai acheté les trousseaux de mariage de ma fille avec.
Après ces travaux, ces femmes procèdent à la vente de leurs produits maraîchers. Les clients arrivent petit à petit. C'est le cas de Siaka Sangare qui vient faire sa commande de pépinières.
J'ai besoin de 1000 pieds de pépinières de piment, mais je constate que les semis n'ont pas atteint l'âge de repiquage.
Cependant, ces femmes font face à un problème crucial d'eau à certains mois de l'année qui paralyse l'activité.
On n'a que deux puits qui tarissent, juste deux mois seulement. Je pense à partir de janvier.
Sans eau, vous arrêtez?
Si, si, on arrête. Nous serions heureuses si on a du soutien.
À noter que ces femmes font cette activité depuis plus de 20 ans. De Bougouni, Juliette Koulibaly pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
18h passé de 11 minutes. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir, Sekou Gadigo.
Asetou Kanté, bonsoir.
Ce soir, vous allez aborder quel sujet ?
Pénurie de sang dans les structures de santé, quelles explications ? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Pour en parler, nous recevons le professeur Amadou B. Diarra, directeur du Centre national de transfusion sanguine, Sidi Boubacar Diarra de l'Association des jeunes pour le développement de la commune 2, Ismaël Koulibaly de l'Association des consommateurs du Mali. L'émission sera en langue nationale. Bon manankan.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Tout de suite, le magazine. De plus en plus, les cas de grossesse précoce se multiplient au Mali. Les responsables de santé estiment que des filles âgées de moins de 16 ans mettent au monde des enfants. Ils affirment que ce phénomène entraîne des complications pendant et après la grossesse chez certaines adolescentes. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Comment les victimes s'en sortent? Quel est le regard de la société sur le sujet? Des éléments de réponse dans ce magazine « Tous les enfants du Mali » réalisé par Fatoumata Yaïsissé avec l'appui de notre correspondant à Kadiolo, Mamoudou Ousseni Bari.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
Mariam Sou avait 13 ans quand elle tombait enceinte pour la première fois. Elle dit avoir subi les préjugés des autres et des complications lors de l'accouchement. Elle habite à Zégua, à la frontière Mali-Côte d'Ivoire.
Quand j'accouchais, le travail a débuté à l'hôpital de Zégua. Mais à cause des complications, on m'a évacuée au CCRF de Kadiolo où j'ai pu accoucher. J'ai beaucoup saigné et avec ma mère, on avait un souci financier. Le père de l'enfant n'a pas assumé la paternité.
Des cas similaires à ceux de Mariam sont fréquents dans les cercles de Kadiolo. C'est ce que déclare le gynécologue du CCRF local, Dr Mahamadou Damélé.
De plus en plus, on enregistre assez de grossesses précoces au sein de notre service. C'est lorsque la femme commence à convulser qu'on les reçoit. Et c'est vraiment un problème qui peut conduire au décès de la femme rapidement.
Dr Mahamadou Damélé affirme aussi que les conséquences d'une grossesse précoce sont multiples. Une situation qui entraîne souvent la mort chez les adolescentes.
Vu l'immaturité de son organisme, elle peut vraiment trop durer en travail. Et quand ça traîne beaucoup, on a beaucoup de conséquences. conséquences comme les fistules vésicaux, les fistules obstétricales. À côté de tout ça, il y a ce qu'on appelle les cancers du col de l'utérus. Une jeune fille qui a eu son premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans est très exposée à faire le cancer du col de l'utérus dans l'avenir.
Certains parents expliquent ces phénomènes par l'échec de l'éducation en famille.
Si l'enfant écoute sa mère, ça la préserve de certaines choses. Tout dépend de l'éducation.
On éduque l'enfant à la maison, mais au dehors, c'est à elle de mieux se comporter. Si tu fais le contraire et que tu tombes enceinte, ton père ne peut rien dire.
La grossesse précoce n'est pas facile. Il y a des cas qui deviennent de gros problèmes. Souvent, les garçons qui les enceintent dépendent eux-mêmes de leurs parents. C'est difficile.
Cependant, les sociologues présentent la situation autrement. Fodié Tandiboura, sociologue.
Il n'y a plus cette protection familiale dans le contexte des grandes familles autour de la jeune fille et même des garçons. Les enfants sont très tôt en contact avec Internet. Ils sont très souvent en contact avec des images qui ne sont pas de leur âge. Tout cela concourt à pervertir leurs habitudes.
Pour ces spécialistes, l'éducation sexuelle à la maison et à l'école pourrait venir à bout de ces phénomènes.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.